10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Comment faut dire ?
Non, Teutseus, on est en 1900.
Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour Dimitri, bonjour à vous tous et à vous toutes. On est ravis de vous retrouver dans l'air de jeu qui va plonger dans le XXe siècle avec notre invité qui est passionné d'histoire. Vous allez bien sûr pouvoir jouer avec nous pour remporter des bons cadeaux. Dimitri Viglietti, vous nous faites l'amitié d'être avec nous ce matin dans l'air de jeu jusqu'à midi. Et on l'a dit, hein, on va plonger très très loin dans le temps avec justement un ouvrage que vous avez écrit qui s'appelle La Sombaille de son siècle. C'est la vie d'un homme médicalisé hein, de La Chaux-de-Fonds de 1915 à nos jours. Alors qu'est-ce qui vous a poussé, vous déjà, parce que vous êtes hein, un passionné d'histoire. Est-ce que c'est à l'école que vous avez eu cet engouement pour l'histoire? Ou c'est venu après ?
C'est venu à l'âge de 11 ans ou lors de vacances chez mes grands-parents à Cressier. J'ai découvert dans leur galta des magazines qui étaient destinés à la déchetterie. Et curieux, je les ai ouverts. Moi qui lisais pas beaucoup, en fait, je me suis mis à en lire un ou deux. Puis après, pour finir de prendre toute la pile, au fil de l'année qui s'est écoulée de mes 11 ans jusqu'à 12 ans, ben voilà, cette passion s'est amorcée. Et puis, je dirais, ben, elle m'a jamais quitté. Voilà.
Vous avez une époque particulière que vous appréciez ? Parce que c'est vraiment large hein, quand on parle d'histoire.
Bah, l'époque du XXe siècle m'a passionné. Comprendre le monde dans qu'on vivait. Puis bah, forcément, bah, les événements de la Première et Deuxième Guerre mondiale qui ont eu un impact sur notre vie. Et puis d'autres événements. Et puis après, en Suisse, bah, qu'est-ce qui se passait en Suisse ? Et puis j'avais un grand-papa formidable qui me racontait... Bah, alors comme garçon, voilà, le temps de la mob, qu'est-ce qu'il faisait et tout, et puis je posais des questions, et puis de fil en aiguille, ben voilà, ça aiguisait tout ça. Et puis après, j'ai imaginé un temps ben, en faire mon métier, mais j'étais un peu paresseux à l'école, je l'avoue. J'avais des notes maximales en géo-histoire, et puis pour le reste, ben voilà, j'étais pas très scolaire. Et puis, puis après, je me suis passionné pour le métier que j'exerce à présent depuis maintenant 45 ans, et dans le domaine de l'énergie, rien à voir.
Vous êtes un historien autodidacte ou vous avez suivi une formation ?
Non, je suis un historien autodidacte parce que je trouve que le terme d'historien... C'est des études. J'ai le plaisir de pouvoir discuter et d'échanger avec des historiens. Et pour moi, c'est un privilège. Et puis aussi, il y a des gens passionnés d'histoire comme moi. Et puis forcément, bah, c'est un plus, on s'enrichit.
C'est vrai qu'il y a un nom qui revient hein, dans le canton de Neuchâtel. Quand on parle d'histoire, c'est Maurice Évart.
Voilà, bah, Maurice Évart, avec lui... j'ai eu l'occasion de collaborer dans son ouvrage sur Fontaine-Melon, parce qu'à l'époque, j'ai habité Fontaine-Melon. Et puis pour d'autres éléments, Maurice et lui, oui, un historien. J'ai des liens et une admiration, forcément.
L'air de jeu, le défi.
Le défi photo, ce sont des photos que vous allez nous envoyer par WhatsApp. Il y a bien sûr un thème, hein, comme chaque dimanche. Quel est le thème d'aujourd'hui ? Dimitri, c'est vous qui allez nous le dévoiler.
Alors, si on pourrait nous donner des photos d'objets du XXe siècle.
Si vous nous suivez en vidéo, eh bien, le studio est décoré façon un peu le XXe siècle, hein, un ancien téléphone.
D'ailleurs, ça vous rappelle des souvenirs, Claire. J'imagine que quand vous avez débuté à RTN, c'était des téléphones comme ça que vous décrochiez, non ?
Il y a un ancien jeu de cartes, il y a une canne que vous avez apportée, il y a une vieille valise, il y a des affiches, il y a des photos, enfin bref. Ce sont des objets vraiment très vintage hein, qu'on vous demande de nous envoyer ce matin par WhatsApp au numéro
079 809
20 20.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, bien on parle du passé de la région évidemment, avec de belles photos qu'on a encore à vous montrer, Claire.
Effectivement, et puis notre invité Dimitri Viglietti, qui est passionné hein, depuis près de 50 ans d'histoire, a déjà écrit quelques livres. Et puis là, le dernier en date, eh bien, c'est sur la Sombaille. Et d'ailleurs, ce livre, voilà, je vais vous le montrer là à l'écran. Alors, c'est la vie d'un homme médicalisé, hein, de la Chaux-de-Fonds, de 1915 à nos jours. C'est aussi une aventure féministe, car, et oui, monsieur, dame, car pendant 50 ans, ce sont des femmes qui étaient à la tête de cet établissement. Vous avez dû faire de nombreuses recherches, alors on va aborder ce sujet maintenant. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre sur la Sombaille?
Alors, ça a débuté il y a 10 ans, une longue aventure. Ma douce moitié travaillant à la Sombaille, la nouvelle directrice de l'époque a demandé, dans le cadre de la Sombaille, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous donner un coup de main? On va fêter en 2015 les 100 ans de cette institution et puis on aimerait mettre sur pied une petite expo. Tout de suite, ma compagne dit « je crois connaître quelqu'un », je vais lui poser la question. Et puis, elle m'a posé la question, j'ai dit « oh mon Dieu, écrire sur la Sombaille, c'est dans un domaine... que je connais peu ou pas, mais allons-y, lançons-nous ce défi, et puis on va trouver des documents et faire cette expo. Cette expo s'est déroulée et a eu un grand succès à l'occasion de ses 100 ans, et également relatée dans la presse. C'était vraiment une chouette expérience. Mais, j'avais récolté tellement de documents et de photos que la directrice dit « mais... ah, monsieur Viglietti, c'est quand même dommage de laisser ça comme ça. Est-ce que ça vous dirait de faire un livre ?» Je dis « un livre, mon Dieu !» Alors j'étais en train d'écrire un livre à ce moment-là sur le village de Fontaine. Puis j'ai dit « je vais terminer ce livre, mais en parallèle, je vais continuer mes recherches. » Parce que souvent, quand on cherche, on peut faire en parallèle la même recherche pour un autre sujet. Et puis j'ai dit « on va s'y lancer. » Et hop, depuis l'automne 2015, j'ai fait mes recherches. C'est un travail de
fourmi.
De fourmi, parce que c'est pas simplement des recherches de documents dans des vieilles archives, mais c'était, je voulais retrouver en fait toutes les familles des directrices depuis 1915. Donc je me suis mis le défi de les rencontrer, de pouvoir discuter, d'obtenir des documents particuliers et puis de pouvoir raconter une histoire. Alors ce qui était intéressant, moi qui ne viens pas du milieu de la santé et tout, j'avais un regard, je dirais, de passionné d'histoire ou d'historien autodidacte en dehors du système, mais qui voulait raconter une histoire sur cette institution. Par mon activité professionnelle du secteur du bâtiment, j'ai dit on va étudier pas simplement tout ce qui est lié à la thérapie, mais également la vie de l'immeuble. Comment il s'est construit, quand, pourquoi. À force de recherche aux archives de l'État de Neuchâtel, bingo, je suis tombé sur le dossier de construction de l'immeuble de 1915. Alors là, c'était... une grosse découverte parce que j'ai pu, avec ça, en faire profiter mon travail de recherche et puis ici un téléphone, se dire en 1915, oui, il y a un téléphone, c'était le 5.28, le numéro de téléphone. Puis en partant de là, je me suis dit, prenons quelques objets ou quelques éléments du home et voyons comment ça a aussi parcouru le temps. Donc, ce n'était pas simplement une aventure sur l'aspect thérapeutique ou l'aspect des soins proprement dit, mais c'était en fait aussi comment, autour de ce home qui ne vivait pas en autarcie, comment ces personnes âgées ont évolué de 1915 à aujourd'hui.
Et puis, vous êtes aussi basé sur des faits historiques de l'époque.
Voilà, alors je voulais en fait mettre Sombaille en son temps, en fait, c'était de dire, cette Sombaille 1915, c'est Première Guerre mondiale, les moyens sont limités, on n'équipe que 2 étages sur 3, parce qu'on n'a pas les moyens d'équiper la totalité du bâtiment. 1918, c'est la fin de la guerre, pour la Chaux-de-Fonds, c'est la grève de 18, qui a aussi un petit impact sur le home, je le relate, et puis je mets toujours en fait en balise dans ce livre, 39-45, comment les personnes âgées ont vécu ce moment-là, parce qu'on parle toujours de la grande histoire, mais là, je voulais aussi cette petite histoire. En fait.
Et puis là, on a une photo, justement. Alors, c'est vraiment le premier bâtiment que l'on a pu voir à la Chaux-de-Fonds. Ça date de 1915, en fait.
Alors là, c'est une photo pour moi, c'est la photo. C'est pour ça que bah, elle est en couverture, parce qu'en fait, elle a toute une histoire, cette photo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme photo de couverture qui soit atypique et autre. Et puis, un jour, justement, dans ma quête des familles, je suis tombé sur le petit-neveu de la deuxième directrice, M. Vautier, qui habitait Dombresson, et puis qui m'a fait la gentillesse de m'accueillir à l'âge de 95 ans, il vivait chez lui. Il m'a dit, bah, M. Viglietti, regardez, j'ai des albums, je ne sais pas si ma tante, elle m'a laissé quelque chose. Et puis là, je tombe sur cette carte. Et derrière, 1927. Et alors, je me souvenais d'avoir fait des recherches et que dans le rapport annuel 27, des gens de la Chaux-de-Fonds étaient allés chercher les personnes âgées pour aller faire la visite du cirque, et j'ai pu en faire parler cette photo. C'est ça qui est fantastique. C'est en fait cette photo qui aurait pu être dans l'anonymat ou dire c'est une photo devant la sombaille. Ben non, elle a une histoire. Et c'est ça qui donne une plus-value à tout.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Bonjour Myriam.
Oui, bonjour.
Bonjour Myriam, comment allez-vous?
Mais bien, merci Claire.
Vous avez bien commencé cette nouvelle année. Est-ce que vous avez pris des résolutions?
Non, je ne prends pas de résolution.
Vous avez bien raison.
Normalement, ça va très bien.
Vous, si vous pouviez monter à bord de la DeLorean, hein, comme dans Retour vers le futur, à quelle époque vous aimeriez vous retrouver?
Je ne sais pas, des hommes des cavernes.
Ah, carrément, vous?
Si loin.
Carrément, oui.
Ah,
oui,
si loin. Ah, d'accord.
Les dépôts et tout.
Mais ils n'avaient pas de réseau Wi-Fi à cette époque-là.
Ah non, il n'y avait pas de réseau Wi-Fi.
Même en 1910. Hein. Dimitri, si vous pouviez remonter dans le temps, vous, ça serait quelle époque?
J'ai parlé de mon intérêt pour le XXe siècle, mais vraiment au départ, j'avais un intérêt pour l'époque romaine, gréco-romaine, voilà.
Ah, et vous, Florian?
Moi, je suis bien en 2023, 24.
Ah d'accord, non, si vous pouviez monter...
Non, je pense que les années 80. Les années 80 étaient encore des années où on arrivait à s'amuser sans trop se faire embêter quand on faisait des bêtises en ville quand on était jeune.
Moi, ça serait un peu les années 30. J'aime bien cette époque-là.
J'aimais bien ces grandes robes. Hein.
Ouais, enfin, pas forcément, hein, ça c'est plutôt avant, hein, les robes de princesse et tout. Non, mais je trouvais que dans les années 30, je ne sais pas si vous partagez mon avis, Myriam, mais c'est vrai que les femmes, elles mettaient de jolis chapeaux, elles étaient...
Coquettes.
Ouais, c'était toute une époque.
C'est élégante.
Voilà, c'est l'élégance même. Bon, on va jouer avec vous, Myriam, voici votre jeu.
L'air de jeu, le blind test.
J'ai trois chansons, alors on l'a dit, hein, jeudi, il y a 1946, 1959 et 1961. Et des questions que je vais vous poser, qui ont bien sûr un rapport avec les titres qu'on va écouter, les extraits. Et si vous me donnez trois bonnes réponses, c'est une carte cadeau Landy de 30 francs, deux bonnes réponses, 20 francs. Êtes-vous prête?
Okay. Oui, je suis prête.
Alors, de quelle chanson célèbre française est extraite cette intro?
La vie en rose.
C'est ça.
Et oui, c'est ça, La vie en rose d'Edith Piaf, 1946. Ensuite, quel est le titre de cette chanson enregistrée en 1959, dont voici un extrait?
Je t'offrirai des perles de pluie.
Bah, je ne me quitte pas.
Et dernier extrait, quel chanteur américain a sorti en 1961 cette chanson qui est devenue un tube?
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Ray Charles,
surnommé The Genius également. Bravo Myriam, vous remportez cette carte cadeau Landy d'une valeur de 30 francs avec ces trois bonnes réponses. On vous souhaite une bonne suite de dimanche et profitez bien de cette journée. Au revoir.
Merci beaucoup, bon dimanche, merci.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Et puis on parle de souvenirs justement aujourd'hui et d'un endroit mythique à la Chaux-de-Fonds, qui est celui du Houm d'Assombaï.
Avec Dimitri Viglietti, eh bien, on parle hein, de cet établissement qui a eu plusieurs appellations. Alors là, j'ai un carnet devant les yeux, exercice 1915. C'est marqué « Asile cantonaux des vieillards du sexe féminin ». Rapport annuel de la marche de ces établissements. C'est un petit peu péjoratif, ce mot « vieillard du sexe féminin ».
Effectivement, dans mes recherches, dès le départ, j'ai été choqué, je dirais, par ces dénominations, c'est un peu, bah, quand on fait un travail de recherche, certaines choses ressortent plus que d'autres. Et puis là, comment ça se fait qu'on a pu mettre un nom pareil? Bah, faut se mettre aussi dans l'époque, hein, dans le contexte, qui était pas du tout égalitaire, il n'y avait pas droit de vote pour les femmes. Tout ça a mis l'un dans l'autre, j'ai vu que les terminologies avaient évolué. Effectivement, en 1947, à quelques mois de la votation sur l'AVS, sous l'impulsion de la directrice de l'époque, Mme Berger, ils ont décidé de remplacer ce nom par Asile Cantonaux pour femmes âgées, qui était quand même un peu plus doux. Et puis, mais voilà, on était dans une époque vraiment particulière. Et puis, bah, ce livre, c'était aussi pour rendre hommage à ces femmes. Bah, moi-même, bah, je suis assez sensible par ça, ayant deux filles et trois petites filles. Je me disais, mais dans quel monde elles auraient évolué à l'époque?
Et parce que voilà. Ce qu'il y a aussi par rapport à ce home médicalisé, c'est que c'était vraiment une aventure féministe, hein, puisque c'était tenu par des femmes et il n'y avait que des femmes. On ne parle pas de mixité, là.
Non. Alors ça, c'était la deuxième découverte, parce qu'en fait, oui, c'était que des femmes de 1915 à 1975, lors de l'ouverture de la nouvelle partie du home de la Sombaille. À ce moment-là, il y a eu un directeur. Mais jusqu'en 1975, c'était des femmes et il n'y avait pas de mixité. Ça veut dire qu'en couple, on se retrouvait à ne plus pouvoir rester à la maison. Jusqu'en 1975, on était séparés. L'homme d'un côté, la femme de l'autre. Et même l'homme à la Chaux-de-Fonds, la femme à Neuchâtel, par exemple. Et puis en 1975, ben, forcément lié à l'évolution, ben, mai 68 était passé par là, prise de conscience au niveau de la politique neuchâteloise, et puis certaines forces progressistes ont dit, ben là, on ne peut plus aller comme ça, on va avoir une prise en charge des personnes âgées plus adaptée à aujourd'hui. On avait déjà des problèmes de dire, il y a trop de personnes âgées, on ne sait plus où les mettre, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas les garder à l'hôpital, ça c'est 1968. Et puis, ben, on décide en 72, ben voilà, la FECPA est créée, des établissements, et on se dit à ce moment-là, on pourrait intégrer la mixité. Et puis, ben, la Sombaille est précurseur dans le canton de Neuchâtel pour le plus grand home du canton. Et puis, la mixité introduite en 1975 à l'essai. Donc, il fallait que les couples se tiennent à carreau, comme on dit. J'ai revu certains comptes rendus aujourd'hui. On se dit, mais mon Dieu, mais c'est 1975, 1980.
C'est pas si vieux que ça. Hein.
Non, non, Charmette, Neuchâtel, c'est même plus tard. Donc, en fait, il faut, chers auditrices, auditeurs, se dire que... il ne faisait pas bon d'être en couple et arrivant à l'âge d'être en EMS parce qu'on était séparés. Je le relate en fait dans cet ouvrage qui est encore une fois destiné au grand public et on voit l'évolution de cette prise en charge des personnes âgées, elle est phénoménale et même ces 50 dernières années. Donc il ne faut pas remonter au calendrier grec.
L'ère de jeu. Avec Claire et Florian.
Vous avez sorti une immense affiche, là. C'était quoi ça?
Eh oui, parce que...
spectacle de Francis Cabrel ou...
Vous allez rire. Alors, toujours avec notre invité, hein, Dimitri Viglietti, qui a retrouvé des carnets aussi de l'époque. Et puis, figurez-vous que moi, j'ai retrouvé ma maman, quand elle était jeune, adolescente, elle a fait de la danse et elle faisait des spectacles. Et là, on a retrouvé, figurez-vous, une affiche qui date de mars 1944, Maison du Peuple, grand concert donné par le club d'accordéon La Ruche, et puis donc avec le bienveillant concours de la jeune danseuse Nelly Flutsch et ses danses acrobatiques.
C'est incroyable. C'est
et alors, attendez.
On se croirait dans la féerie des sirènes du je sais pas trop quoi là.
Alors attendez, écoutez, entrée 1 franc, taxe comprise, enfants et militaires 45 centimes.
Ah, ben, il y a des réductions déjà pour les enfants, puis les militaires, on ne les oubliait pas. Si...
Et puis vous, alors, qu'est-ce que vous avez retrouvé, Dimitri, avec des prix, justement, qui sont assez incroyables de cette époque?
Oui, effectivement, ça va de tout à rien. On a un transport en ambulance depuis la Sombaille jusqu'à Péreux, où certaines personnes âgées terminaient leur vie, pour 47 francs. Le transport en ambulance.
De nos jours, c'est un peu plus.
De nos jours, c'est un petit peu plus. Le courrier, c'était 5 centimes. 74 ramequins au fromage chez le boulanger du coin pour 24 francs. Une course en tram à la Chaux-de-Fonds, l'abonnement de la journée à 1 franc. Alors effectivement, ça nous interpelle. Alors le rapport était que le salaire de la directrice était à l'époque d'une centaine de francs par mois. L'aide était à 70 francs. La pension en fait du mois pour une personne était à 167 francs. Donc, c'est-à-dire la pension complète. Après, les choses forcément ont pris l'ascenseur, mais ces prix sont restés assez stables, je dirais, jusqu'au début des années 30. Et puis après, il y a eu l'inflation, il y a eu la guerre, mais on retrouve quand même des prix un poil plus élevés dans les années 40. Et puis voilà, on arrive aujourd'hui. Mais c'est effectivement amusant de voir que 5 kilos de sel pour 1 franc, 35 centimes en 1915 pour 2 kilos de pain gramme, 50 kilos de pommes de terre pour 8 francs. OK.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
On va déjà vous remercier pour les photos que vous nous envoyez. Là, on a reçu quelque chose. C'est Ariane qui nous l'envoie. C'est un passeport délivré en 1800 par la principauté de Neuchâtel et Valangin en Suisse. Alors, je vous lis quelques phrases qui a marqué sur ce passeport. Nous, le président du Conseil d'État, établi par Sa Majesté le roi de Prusse. Et puis, un tampon. Ils ont bien changé les passeports aujourd'hui, je peux vous dire. Vous nous enverrez les photos, évidemment, cet après-midi sur notre galerie photo. Continuez à nous envoyer des messages comme ça, ça nous ravit au 079 809 20 20.
Toujours avec notre invité Dimitri Viglietti, qui est un passionné d'histoire et qui a écrit ce livre « La Sombaille en son siècle » et qui parle aussi d'autres choses, d'autres événements, pas que de la Sombaille. Et puis, on a une photo derrière nous d'un tram. Alors, c'est vrai qu'à la Chaux-de-Fonds, comme dans d'autres villes également, le tram, c'était le transport qu'il y avait. Cette photo, elle date de quelle année? Est-ce que vous avez une petite idée? Et puis, qu'est-ce que ce tram a comme importance?
Ça, c'est une trouvaille. Je remercie la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds. Je voulais essayer de trouver une photo concernant la Deuxième Guerre mondiale et qui a un lien avec la Sombaille. Et puis là, je l'ai trouvée, cultivée pour tenir. Ah, qu'est-ce que ça veut dire avec un épi de blé? En fait, à l'époque, la Suisse, entourée de pays en guerre, a dit on va faire un plan Wallen, pouvoir se nourrir le pays, avoir une autosuffisance. Et puis, ce plan Wallen a été mis en application dans le pays, et puis la Sombaille a participé. Ils se sont mis à cultiver un lopin de terre appartenant à la Sombaille, c'est damagé. Elles ont aidé tant qu'elles pouvaient, certaines ont bêché, d'autres ont semé, et puis après, elles ont récolté. Donc, elles ont fait partie de ce plan Wallen. Le plan Wallen n'était pas que destiné aux agriculteurs ou destiné à un secteur bien précis, mais c'est vraiment un élan de la population. Et je pense que les gens qui ont vécu cette Deuxième Guerre mondiale en Suisse les a marqués. En tout cas, les témoignages que j'ai eus pour des gens qui ont entre 80 et 90 ans, ça a été longuement évoqué.
Chacun, s'il avait un petit jardin, pouvait accéder à ce plan et faire également don de ses légumes ou de choses comme
ça. Tout à fait, il y avait aussi un partage, il y avait des gens qui habitaient en ville de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds, et ça je l'ai vu élu, qui allaient chez de la parenté ou qui avaient des connaissances en campagne, il y avait un échange, on cultivait à Neuchâtel, on cultivait à la Chaux-de-Fonds, on cultivait dans tout le canton. Ces petits jardins.
D'où la construction de la ville de Chaux-de-Fonds. Il y a énormément de vieux bâtiments qui ont des grandes surfaces devant. C'était des jardins, ça, à l'époque?
Ça a été des jardins, effectivement, qui sont devenus après des plates-bandes et autres, ou des jardins d'agrément. Mais de ces jardins d'agrément, il y a un moment donné où on en a fait des jardins. Certains, peut-être auditrices, auditeurs, ont des photos où ils se sont mis à la bêche et au râteau durant ces années entre 40 et 45, parce qu'il faut dire les coupons alimentaires ont été en vigueur jusqu'en 47, 48, donc bien après la guerre, donc c'était pas juste durant le conflit.
Mais ça, je me souviens que ma maman nous disait quand ils étaient gamins, avec leur tickets hein, pendant la guerre, qui devaient pouvoir aller chercher du pain, du beurre, des choses comme ça. Hein.
Voilà, et ça, c'était la préoccupation de la première directrice durant la Première Guerre mondiale, où là également, il n'y avait pas de plan Wallen, justement, force de cette expérience de la Première Guerre mondiale. On s'est dit à la deuxième, on va justement faire un plan pour... éviter, parce qu'en arrivant 18-19, c'était compliqué pour l'alimentation du pays. Et à la Sombaï, cette directrice, elle se battait. Il suffit de voir la correspondance qu'elle a avec l'Office du ravitaillement pour obtenir quelques pommes de terre pour ses résidentes.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Bonjour Christine, comment allez-vous?
Bonjour Claire, bonjour RTN, je vais bien, merci et vous?
Mais c'est parfait. Est-ce que vous avez une époque, si vous pouviez monter, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une voiture où on peut remonter dans le temps, ça serait quelle année, quelle époque pour vous?
Ça serait peut-être après la Deuxième Guerre mondiale.
Plutôt les années 50, quelque chose comme ça?
Oui.
D'accord. On va jouer avec vous et voici le jeu que vous avez choisi.
L'air de jeu, le juste mot.
Alors, il faudra compléter des phrases que je vais vous donner. Il faudra trouver le juste mot. Et puis, vous allez jouer pour un bon pour le karting de Payerne. Est-ce que vous êtes prête? Et puis, attention, vous avez un chrono. Alors, il faudra aller assez vite. Est-ce que vous êtes prête, Christine?
Oui, je suis prête, Claire.
Top! Complétez cette expression, mettre dans son vin.
Mettre de l'eau.
Terminez le titre de ce film de Miloš Forman, vol au-dessus d'un nid
de coucou.
Complétez le titre de cette chanson de Slimane, des milliers de...
Aucune idée.
Ah non, c'est pas la bonne réponse.
Des milliers de aucune idée. Ah, c'est pas mal ça. Ça ne vous revient pas?
Des milliers de...
Allez, c'est bon, de toute façon. Il fallait nous donner en tout cas de bonnes réponses pour gagner. Et c'est chose faite, on met effectivement de l'eau dans son vin, hein, selon l'expression. C'est bien un vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Miloš Forman. Et puis, des milliers de je t'aime, cette chanson de Slimane.
C'était ça, Christine.
Si tu savais comme je l'aime...
Vous l'avez déjà entendu celle-là sur RTN, je suis sûr, moi.
Bien sûr, mais ça m'est parvenu.
Mais c'est pas grave, on va écouter cette chanson et puis vous allez pouvoir bénéficier donc de ce bon pour aller faire des tours de karting du côté de Payerne. On vous souhaite un bon dimanche et merci d'avoir
merci
joué avec
infiniment.
Nous.
Merci infiniment, bon dimanche à tous.
Merci Christine, au revoir.
À la prochaine.
Merci pour votre bonne humeur, bon dimanche.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Toujours avec Dimitri Viglietti qui est notre invité pour ce grand retour dans le 20e siècle. Alors, j'ai chez moi un vieux téléphone.
Ah ben voilà, ça
allô
sonne.
Allô. Et oui, regardez-moi cet objet. Je ne sais pas de quelle époque il date. Il y a un numéro à 1, 2, 3, 4, il y a 5 chiffres.
Dans mon livre, voulu aborder certains objets propres à la Sombaï, mais également où les lectrices et lecteurs peuvent s'y retrouver, j'ai pris le téléphone. Alors, le premier téléphone à la Sombaï est installé en 1915, non sans peine. On est
Pourquoi
Première Guerre mondiale. Et puis, y a très peu de téléphones en service. Et puis, les lignes sont prioritaires pour l'armée. Alors, on dit à la Sombaï, écoutez, vous êtes un home qui est isolé à la Chaux-de-Fonds, avec des moyens pour parvenir un peu compliqués, un chemin en mauvais état. On va accepter de vous mettre la ligne de téléphone, mais vous pouvez être coupé durant votre communication à tout moment. Où on peut vous couper la ligne pendant un mois, si c'est nécessaire, lié au conflit. Alors, le premier numéro est le 528. Et puis, effectivement, l'année suivante, ils ont besoin du médecin, l'appel est fait et ils sont coupés au milieu de l'appel. Donc, vraiment, ça ne badinait pas. On voit après l'évolution. En 1930, ils passent à 5 chiffres. C'est le 2-15-28. Avant, c'était le 5-28. Et puis, on voit en 1945, on passe à 5 chiffres, mais avec une autre nouvelle numérotation. Et puis, on voit que je découvre qu'en 1951, à la Chaux-de-Fonds, c'est l'arrivée du téléphone automatique, parce que jusqu'en 51, ben, il y avait
des opératrices.
Des opératrices qui passaient les... Voilà. Alors, c'est le grand changement. On a toujours le 2-46-60. Et puis, pour la Sombaille, comme pour le reste du canton de Neuchâtel, en 1970, on passe à 6 chiffres avec un indicatif qui était le 0,39 pour le haut, 0,38 pour le bas. Et puis en 96, ben voilà, une nouvelle évolution, on passe avec le 0,32. Et puis ben voilà, on voit cette évolution que je relate, qui est autant voilà, pour la Sombaille que pour nous. C'est un petit retour sur le passé.
Mais je suis sûre que les jeunes, ils n'ont jamais connu ce téléphone avec le cadran.
Le disque, ouais, pour tourner le disque.
Moi, je faisais comme ça, je prenais mon stylo et puis... Voilà, je sais
comme ça. Vous faites une parfaite secrétaire, là.
Oui, mais j'ai été téléphoniste, Florian, aussi, dans mon jeune âge.
Ah, ben voilà. Ouais.
Voilà, donc, bon, j'avais pas un téléphone comme ça, j'avais une centrale, mais... Refaites voir le petit, vous avez encore le bruit voilà.
Non, j'ai plus le bruit.
C'est dommage.
On va faire à la main, donc...
Jusqu'à midi, l'heure de jeu.
L'heure de jeu est consacrée ce matin au XXe siècle, avec l'histoire, avec un grand H, concernant ce qui s'est passé dans le canton de Neuchâtel, en Suisse également, et puis qui ont un lien également avec l'ouvrage que vous aviez écrit sur la Sombaille, le home médicalisé de la Sombaille. Et puis là, on va évoquer un petit peu, vous avez apporté des objets. Il y a une valise, il y a une canne, il y a un jeu de cartes. Il y a un livre également qui est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce livre ?
Alors, en fait, c'est des copies de lettres. À l'époque, pas de machine à écrire. On écrivait à la main et la première directrice faisait ses doubles, comme on dit, sur papier de soie. Et puis là, j'ai découvert dans les archives de la Sombaille que ça avait traversé miraculeusement les époques. Et puis, il y avait 3 livres, dont celui que j'ai pris ici dans les studios, où on voit...
On est en quelle année, là ?
Là, on est en 1917, on est le 24 février, et puis on voit que pour la succession de Madame Pi, qui est une pensionnaire qui vient de décéder, on fait l'inventaire de ce qu'elle a, 18 mouchoirs, 4 robes, 2 châles et 37 francs d'argent liquide. Donc elle a... En fait, pour 95 francs qu'on estime de habits et objets personnels, et si on prend le volume, c'est pour ça que j'ai pris cette valise, en fait, qui vient du home. En fait,
cette valise, qu'est-ce qu'elle représente ?
Cette valise, c'était en fait le volume. On venait avec une valise qu'on dirait communément aujourd'hui comme les compagnies aériennes low cost. Voilà, c'est exactement ces grandeurs-là. 50, cette valise, elle fait 50 par 35 par 15. C'était le contenu qu'on avait quand on arrivait à la Sombaille dans les années 15 aux années 50. Il faut dire que c'était des conditions modestes. L'AVS en 1948, c'était 40 francs par mois minimum jusqu'à 125. Donc en fait, avant, il n'y avait pas de filet social. Les gens qui arrivaient étaient dans des conditions modestes. On peut dire l'âge que j'ai pu étudier, c'est qu'il y avait, on peut dire, les 2/3 venaient de l'assistance publique, parce qu'elles n'avaient plus de moyens, étaient très limitées. Et puis, par contre, le tiers pouvait avoir un petit pécule et qui était utilisé pour les besoins et pour payer, en fait, leur mensualité au home.
Est-ce que vous avez pu voir un petit peu quels étaient les salaires des gens de l'époque ? Est-ce qu'on sait, par exemple, ce que gagnait, je sais pas moi, une famille avec 2 enfants, par exemple ?
Alors, j'ai pas étudié proprement dit les salaires de tout un chacun, mais je vois par exemple le salaire de Madame Stucki en 1915, quand elle arrive à la Sombaille, elle est de 70 francs par mois. Je vois que là, il y a une sœur qu'on appelle diaconesse qui donne les soins en 1924. Alors là, on passe une évolution salariale à 118 francs 50. C'est vraiment peu. Et c'est aussi un hommage pour moi à toute cette profession. On a rendu hommage pendant la pandémie. On a vu comme cette ben, les soins et toute la santé publique pouvaient nous rendre service. Puis là, par ce livre, je voulais aussi vous dire, ben voilà, on vient de loin et vous méritez qu'on vous... Ben voilà, qu'on ressort de l'oubli, et puis quel chemin parcouru, et ça a été beaucoup de dévouement pour un petit salaire, en fait.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et l'air de jeu aujourd'hui, dans les années 1900, ou dans ce 20e siècle, on a trouvé la photo gagnante. Il y a eu du boulot, hein, Dimitri, aujourd'hui.
Ah, il y a eu de magnifiques photos, vous les découvrirez cet après-midi sur notre galerie photo. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont envoyé des photos. Et celle qui a retenu l'attention de notre invité, Dimitri Viglietti, c'est celle de Laurent, qui habite à Constantine. Bonjour Laurent, comment allez-vous ?
Mais bonjour, je vais bien, merci.
Alors dites-nous, quel objet vous nous avez envoyé en photo ?
Alors c'est un ancien distributeur de monnaie que l'on utilisait dans les bus ou les trains, que le chef de gare ou autre avait à la ceinture.
Et c'est quoi un petit peu l'époque de cet objet ?
Je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas.
Mais juste dans les années 80,
vieux,
oui.
Je peux pas vous dire.
Mais on l'a utilisé jusqu'à quand ?
Ouais, moi je vous dirais 70, ouais, début 80.
Ouais, même 82, hein, quand ils ont changé les bus puis qu'ils sont passés en couleur verte, c'est là que ce genre d'objet a disparu. Mais ces vieux bus, enfin, moi j'étais plutôt à la Chaux-de-Fonds, mais ces vieux bus bleus là où on avait justement cet objet accroché sur le côté du chauffeur ou des fois en bandoulière aussi.
Ouais, en bandoulière, exactement.
Est-ce que vous aimez justement les objets anciens, Laurent?
Oui, moi j'aime bien. J'ai beaucoup de choses au niveau pompier, sapeur-pompier, parce que je suis pompier.
Ouais.
Plusieurs vieux matériaux pompiers. J'aime bien.
Ah, moi, cool.
Ma copine me dit toujours que je suis une brocante ambulante.
Ouais, c'est ce que je voulais dire. Il y avait Louis la brocante, maintenant il y a Laurent la brocante.
Excellent, ouais.
En tout cas, bravo. Dimitri, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette photo ?
C'est une photo originale en fait, et ça me rappelle aussi ma jeunesse. Je me souviens des contrôleurs qui avaient cet appareil comme un peu mystérieux avec des touches, puis avec une certaine dextérité, ils nous distribuaient la monnaie. Et c'est vrai.
Ils se trompaient jamais.
Non, alors là, c'était remarquable, effectivement.
Mais en tout cas, on vous félicite, Laurent. Vous remportez une carte cadeau Landy de 20 francs.
Merci beaucoup.
Et puis, on vous souhaite une bonne suite de dimanche.
Merci à vous aussi. Bonne journée à vous tous.
Merci, au revoir.
Laurent. Au revoir. Il y a aussi le même, mais en automatique, qui était accroché, en fait. Puis après, il y avait une espèce de plastique noir où les pièces, elles arrivaient dedans. Puis ça faisait un bruit. Puis on ramassait la monnaie. Mais c'est vrai, c'était toujours juste. Ça, c'est important.
Envie de prendre l'air. Jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et on va encore vous conter quelque chose sur ce home d'Assombaille et puis sur cette époque, Claire.
Oui, alors on a parlé du téléphone, on a parlé de plein de choses, hein, du métro, tout ça. On fait de la radio, hein, cette année, on fête nos 40 ans, hein, RTN. On voit bien les fêtes, hein, vous allez voir, on vous prépare vraiment quelque chose d'incroyable, de chouette. Est-ce qu'à cette époque, il y avait déjà la radio ? Enfin, est-ce que les gens pouvaient écouter de la musique ?
Alors, quand le home s'est ouvert, il n'y avait en fait rien. Et puis, c'est la solidarité des chaudefonnières et chaudefonniers qui ont amené un tourne-disque et quelques disques. Donc, c'était une quarantaine quand même de 78 tours. Et puis pour un petit peu égayer les soirées de ces dames âgées. Et puis de 1915 à 1926, ça fonctionnait comme ça. Il y avait également un piano et puis une dame âgée pouvait se mettre au piano. Et puis voilà, donc c'était quand même festif. Ce n'était pas des gens qui vivaient cloîtrés sur eux, tristes. Et voilà.
C'était pas un couvent non
c'est
plus.
C'est pas
hein.
un couvent et c'est pas... voilà, il fallait quand même voir aussi un aspect où il y avait de la vie. Voilà. Et en 1926, une personne anonyme de Chaux-de-Fonds fait un cadeau de Noël et offre une radio TSF. Et c'était l'arrivée de la radio. Alors ça... bousculer, je dirais, les habitudes des pensionnaires. Elles se sont mises à écouter la radio, un peu moins les disques. Et puis après, ben, je découvre que dans l'évolution, ben, en 1936, ils ont ben, une radio Philips. Et entre-temps, ben, c'est Radio Sautant qui fait un tour à la Chaux-de-Fonds et décide d'aller au home de la Sombaille. Et il y a un bel article dans l'Impartial qui narre ce moment où la radio est arrivée dans le home. Et puis, la télévision suisse romande, elle, a fait une... incursion en 79, également une première à l'époque. Donc, au fil des années, on voit ben, que cette institution aussi a vécu de la générosité des gens. Et puis, en 1960, ben, c'est l'arrivée de la première télévision. Également un don anonyme d'une personne, on sait qu'elle vient de la Chaux-de-Fonds, mais voilà. Et puis, ben, c'est touchant de voir, en fait, cette solidarité, parce qu'en fait, ben, ils avaient peu de moyens et ben, les gens étaient touchés des conditions de ces personnes et puis elles voulaient leur apporter un petit plus.
Bon, en tout cas, merci pour toute cette partie historique hein, de la Sombaille que vous nous avez racontée. Puis, si les gens veulent en savoir plus, eh bien, il y a votre livre hein, qui est sorti, qui vous a demandé quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherches. Mais toutes ces recherches vous ont appris énormément, Dimitri.
Effectivement, parce que c'est des recherches où j'ai pu aussi m'y retrouver. En fait, ben, l'affaire du téléphone, l'arrivée de la télévision, enfin, plein d'événements où on peut, nous, également, comme les auditrices, auditeurs, se retrouver dans ce livre, parce que c'est pas simplement concentré sur les activités liées au home de la Sombaille, mais en fait, on peut habiter Neuchâtel, le Val de Travers ou le Val de Rue, on peut se retrouver dans ce livre, parce qu'en fait, il y a plein de petites balises. Rappelle des souvenirs quand on était plus jeune.
En tout cas, merci infiniment de votre passage dans l'air de jeu ce matin. Et puis, à une prochaine fois pour une prochaine histoire.
Et qui sait?